Bonjour à tous. On est content de pouvoir passer ce moment ensemble. On vous souhaite tous la bienvenue. On vous souhaite la bienvenue aussi à Suzanne. Je sais qu'elle veut dire quelque chose. On va lui donner le temps après la prédication pour simplement nous saluer. On est content qu'elle soit là avec nous et que chacun puisse partager ce moment spécial. Comme on a dit, je sentais vraiment l'importance de prendre aussi ce dimanche simplement un petit témoignage, rappeler justement, comme on a vu après les témoignages que vous avez faits, simplement se rappeler qui était Jonas et ce qu'il nous laisse. Parce que on va voir que c'est un homme, comme vous avez dit, un grand homme qui laisse beaucoup, un héritage, un témoignage qui est fort, qui est puissant. Et on n'arrivera pas en quelques minutes d'être capable de tout dire, mais on veut simplement pouvoir simplement partager chacun de nous, partager moi-même aussi ce que j'ai vécu aussi avec Jonas et ce qu'il nous permet de vivre aussi. Ce n'est pas dans le but de le mettre sur un piédestal. Lui, vous avez entendu, c'est un homme qui est très simple. Il voulait simplement qu'on reste simple aussi dans notre approche avec lui, mais c'est de reconnaître ce qu'il a fait pour son Seigneur et que ça puisse nous encourager à être aussi, comme il a été un modèle pour nous, un exemple, qu'il puisse nous encourager encore nous-mêmes dans notre cheminement avec le Seigneur. Prochain dia, ce qui nous frappe d'emblée avec notre frère Jonas, c'est sa joie de vivre et son enthousiasme. Hein? Combien de fois, quand je l'ai rencontré au début, il voulait apprendre. Il était déjà à la retraite depuis de nombreuses années. Il voulait apprendre à jouer de la guitare. Il voulait même apprendre d'autres langues. À chaque fois que je le voyais, qu'il voyait quelque chose qui était intéressant, il disait, moi, je veux l'apprendre. Il avait toujours cette soif d'apprendre. C'est vrai qu'on voit que son métier de professeur, il l'est dans son âme, mais il avait une joie de vivre, un enthousiasme, comme vous l'avez aussi partagé. Ça montre qu'il n'y a pas d'âge, justement, pour apprendre, pour faire quelque chose. Même si nous sommes motivés dans le Seigneur, alors il peut nous susciter de grandes choses à faire même à 50 ans, 60 ans, 70 ans, ou même à 90 ans, ou même 95 ans aussi pour notre frère Jonas. Lorsque je vois comment il a commencé son collège en Côte d'Ivoire, c'est justement le temps pour lui de ralentir, de profiter, de prendre un temps de retraite. Mais au lieu de cela, il a ressenti que le Seigneur le poussait à construire depuis le début un collège pour aider les élèves de sa région. Il n'avait pas forcément des moyens financiers, mais il a cru en son Seigneur, qui a pourvu d'une façon miraculeuse. Aujourd'hui, c'est un collège qui accueille des centaines d'élèves et on peut voir comment que Dieu accomplit de grandes choses aussi à travers aussi ces différentes personnes qui passent à travers ce collège, qui apprennent, qui se forment et qui fassent aussi la future relève aussi. Jonas était un homme de foi, d'une foi simple, mais qui agissait. Il croyait que ce que Dieu disait dans sa parole est ce qu'il lui demandait comme volonté. Il se posait pas 50 000 questions, savoir s'il pouvait le faire, si c'est la bonne chose à faire, etc. Non, simplement, lorsque Dieu lui disait quelque chose, lorsqu'il ressentait que Dieu lui disait d'aller à telle place ou faire telle chose, il le faisait. Nous sommes appelés à avoir cette foi simple en notre Dieu, de faire simplement ce que Dieu nous demande. Souvent, on entend que peut-être que Dieu ne nous parle pas ou que nous ne donne pas du travail à faire. Mais souvent, des fois, nous restons assis sur place en attendant que Dieu nous ouvre les portes. Mais pour pouvoir voir ce que le Seigneur veut pour nous, pour pouvoir continuer le travail que Dieu nous demande, il faut apprendre, il faut se former. Voilà pourquoi que chaque fois que j'encourage des gens qui disent, ben, j'aimerais faire telle chose pour le Seigneur, je sens que le Seigneur veut quelque chose, mais ils ne savent pas comment commencer, je leur dis, ben, forme-toi, apprends, vas-y déjà, ouvre déjà quelque chose, ouvre déjà une porte. Et tu vas voir comment que le Seigneur va continuer à permettre que cette porte puisse grandir, puisse permettre aussi que tu puisses aller de l'avant dans le ministère ou dans la tâche que Dieu t'a confiée. Il faut avancer petit à petit, une pas à la fois. Mais on voit comment que le Seigneur agit. Prochain dia, j'étais un peu sidéré d'apprendre que Jonas avait décidé, au lieu de rester à la maison, de parcourir le quartier à la recherche de canettes pour pas laisser les canettes dans les poubelles. Hein. Vous savez comment que Jonas allait dans le quartier, il ramassait dans les poubelles autour du quartier les canettes. Aujourd'hui, si on vous dit que c'est quoi ton passe-temps, ben, c'est de ramasser des canettes. Je ne pense pas que vous souriez ou bien que vous allez dire, mais est-ce que ça, c'est plutôt un travail qui est donné peut-être plus à des personnes de la rue ou à des personnes qui n'ont pas de moyens, puis ils essayent de se faire un petit peu d'argent avec cela. Mais pour Jonas, ça ne le dérangeait pas d'aller justement fouiller dans les poubelles, le dire, ben, au lieu de jeter ces canettes, ben, on veut les récupérer pour l'environnement, pour l'importance de l'environnement. Lui qui était directeur d'école, lui qui était fondateur d'un collège, il n'a pas vu dans cette activité quelque chose de dégradant. Combien d'après vous il faut de canettes à 5 sous ou à 10 sous pour faire une petite somme, hein? Peut-être que vous l'avez déjà fait vous-même. Il faut ramasser beaucoup de canettes pour être capable d'aller chercher un 5 ou 10 dollars. On pourrait se dire, Seigneur, mais donne-moi un travail, une activité beaucoup plus payante. Donne-moi une activité qui est plus valorisante. Mais semaine après semaine, il continuait de ramasser des canettes, de trier les poubelles à la recherche des canettes. Il se salissait les mains, mais Jonas le faisait de bon cœur et dans la joie. Dans ce temps, justement, les gens du quartier le voyaient. Jonas parlait avec eux. Il témoignait à sa façon de l'importance de trier, de récupérer les canettes. Il partageait aussi sa foi. Jonas m'a dit que les gens étaient tellement étonnés de le voir régulièrement passer pour ramasser des canettes, qu'à la fin, eux-mêmes préparaient les sacs avec remplis de canettes au bord de la rue pour qu'ils puissent directement aller les chercher. Il avait déjà des fois des sacs remplis déjà qui étaient prêts pour lui. Vous savez combien il a récolté d'argent après tant d'années? La dernière fois que je lui ai parlé, et ça date de plusieurs années, c'était plus de 6 000 dollars. 6 000 dollars à 5 sous ou à 10 sous la canette, ça représente plus de 110 000 canettes. Jonas n'a pas regardé combien ça allait payer à l'heure, si c'était vraiment payant comme travail. Il a continué, un jour, il a récolté la fruit de son labeur. On voit dans cet exemple, justement, le fruit de la persévérance, du travail à faire sans renicher, que c'est un sale boulot, que les gens vont nous regarder en travers. Mes amis, Jonas, c'est un beau témoignage que même à un certain âge, nous pouvons faire une différence dans la société, sans grands moyens, sans prétention, mais simplement être là où Dieu nous place et pour le servir. Ça montre qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite d'âge, de capacité ou de toutes sortes d'autres choses que l'humain va mettre comme barrière, comme excuse, mais simplement être là à le servir, même dans les petites choses, et Dieu fait le reste. Comme vous avez lu, comme vous avez peut-être certains l'ont le livre, on a encore quelques livres de Jonas à un prix spécial pour que vous puissiez garder cet héritage avec vous. Vous savez qu'il a écrit justement des livres. Ce n'était pas simplement pour être reconnu ou être riche, mais simplement de partager son expérience de comment que le Seigneur l'a béni. Il l'a fait à travers les témoignages dans ses livres. Le premier livre parle de son parcours de vie jusqu'au Québec et comment qu'il a trouvé justement, comme Lise nous a partagé, plus de 50 ans après sa première visite en 1955 lors d'un jamboree scout. Son deuxième livre, il a sorti il y a quelques mois, nous parle de son rêve de revenir au Canada après son premier passage. C'est seulement plus de 50 ans après que son rêve s'est réalisé et qu'il est resté ici en rencontrant une guide scout, notre sœur Lise, avec qui il a correspondu durant tout ce temps. Jonas décrit dans ce livre sa fierté d'être au Québec, d'être un citoyen canadien, de la reconnaissance qu'il avait envers le Seigneur lui a permis de réaliser son rêve. J'étais étonné en lisant son livre comment qu'il était reconnaissant envers le Canada, de la chance qu'il a eue d'avoir venu une première fois et comment que ça formait son travail futur aussi au Côte d'Ivoire. Ce livre écrit, c'est un héritage, une page écrite que nous laissons pour les générations suivantes. Jonas voulait simplement laisser une trace écrite pour raconter son parcours de vie, de démontrer la fidélité de Dieu. Lorsqu'on voit Jonas et comment qu'il avait cette simplicité à s'intégrer à un groupe et d'avoir un impact, ça devrait nous encourager qu'il nous soit aussi possible de le faire. On sait comment que justement avec Lise, ils ont été impliqués pendant des années dans plusieurs organismes à Montréal-Nord. Et par leur présence, leur contribution, ils faisaient une différence dans le quartier. Ça a eu comme résultat qu'un jour, ils ont été reconnus. On a pu voir, on a déjà, vous avez entendu qu'un jour, dans un article, journal du Montréal-Nord. Il était sur la première page. À partir de ce jour-là, plusieurs personnes du quartier le reconnaissaient, le félicitaient pour tout son travail, pour tout son exemple. Il était reconnu par les autorités de Montréal-Nord, de la province du Québec et du Canada. Il était honoré même de la médaille de l'Assemblée nationale pour sa contribution à la communauté. Il n'a pas cherché ses honneurs. Il n'a pas cherché à être reconnu dans le quartier. Jonas voulait simplement aider son quartier. Et l'impact était beaucoup plus grand qu'il pensait ou qu'il voulait. C'est vrai que depuis des années, je nous encourage à s'intégrer dans le quartier, à faire du bénévolat. Comment que, à travers le bénévolat, on peut être un témoignage. On peut, par notre action, par nos paroles, par notre présence, on peut justement simplement être là avec les gens. Et on a pu voir, justement, lorsque, dans ces différentes places où il a été honoré, comment que les gens étaient fiers de lui, comment que les gens le saluaient. Ce n'était pas juste des paroles que Jonas disait, c'était par l'exemple, par son témoignage, par sa présence dans le quartier. C'est vrai que certaines personnes, peut-être de notre culture, disent que ce n'est pas forcément facile de s'intégrer et d'être en témoignage de notre présence, de notre contribution dans la communauté. C'est vrai que des fois, ça prend du temps à s'intégrer. Mais lorsqu'on voit Jonas, c'est possible. C'est possible. Il n'avait rien de spécifique ou d'autre, de plus grand que des autres personnes. Il a simplement fait le travail qu'il pensait de pouvoir faire. Et Dieu l'a récompensé jour après jour. Nous avons un rôle à jouer dans la société. Et nous croyons que chaque chrétien a un témoignage qu'il peut partager. Non pas juste de sa conversion ou de ses débuts dans sa vie chrétienne, mais tout au long de sa vie. Chaque chrétien vit des expériences qui vont forger son caractère chrétien, qui vont lui démontrer comment que Dieu agit en lui et comment qu'il peut partager cela aussi autour de lui. Les gens ont besoin de voir des gens qui ne vont pas simplement juste à l'église le dimanche, mais des gens qui sont impliqués, des gens qui partagent le quotidien de ces personnes. Prochain dia. La réalité que nous rencontrons aujourd'hui dans nos églises et parmi les chrétiens, c'est que nous disons que c'est important de faire de l'évangélisation autour de nous, afin que les personnes puissent connaître Jésus-Christ. Mais je vais vous donner quelques chiffres maintenant, pour voir la réalité qui se passe ici, en Amérique du Nord. Dans un sondage, une fois parmi des personnes, on a dit que 90% des chrétiens au Canada vont dire que pour eux, l'évangélisation c'est un devoir chrétien. Ils voient une importance de pouvoir partager l'évangile. Mais il y a seulement 10% parmi ces 10% de ces chrétiens qui le font réellement. Donc, on dit que oui, c'est l'évangélisation, le partage de l'évangile, c'est important, mais il y a simplement le 10% qui vont le faire. Ça veut dire même pas une personne sur 10. Alors, quel est le problème? Pourquoi que nous savons que c'est important, mais nous ne le faisons pas? Regardons d'autres quelques chiffres. En 1971, 4% des Canadiens n'avaient aucune affiliation religieuse. 4%. Donc c'est vrai que dans ces années-là, c'était vraiment le christianisme qui prédominait la scène canadienne. Donc à ce moment-là, de partager sa foi se faisait bien parmi les personnes qui croyaient qu'il y avait un Dieu, puisque tout le monde, on pourrait dire, allait à l'église, tout le monde avait des valeurs chrétiennes. En 2011, le chiffre est monté à 23,9%. Qui n'ont pas d'affiliation religieuse. Aujourd'hui, en 2021, c'est 34,6%. Donc, en l'espace de peut-être 50 ans, nous sommes allés de 4% à plus de 35%. Les régions où il y a le plus haut taux de gens sans église, c'est en Colombie-Britannique et au Québec. Alors oui, c'est vrai que peut-être aujourd'hui, c'est plus difficile de partager, de témoigner à ces personnes qui ne veulent plus entendre le discours chrétien et de l'Église. Une autre statistique qui est alarmante, qui alarme les églises chrétiennes, c'est qu'il dit que 80% des Canadiens pensent que nous n'avons pas besoin d'aller à l'Église pour être chrétiens. Car 80% des Canadiens disent « j'ai pas besoin d'aller à l'Église pour vivre ma foi chrétienne ». Donc, c'est sûr que là-dedans, il y a peut-être ceux qui font simplement juste croire en Dieu, mais il y a aussi des personnes qui veulent mettre vraiment Dieu en premier de leur place, mais qui peut-être disent, ben, ce n'est pas important, je vais aller peut-être une fois par mois ou j'irai quand j'aurai le temps. On voit que de plus en plus, les gens font la vie chrétienne à leur façon, dans leur coin, sans avoir l'occasion de le partager. Et lorsque j'étais en Suisse dernièrement, durant les fêtes, j'étais sidéré de voir le nombre d'amis que je retrouvais même des fois 20 ans ou 25 ans après que je n'avais pas revu, qui aujourd'hui me disent, ben, l'Église ne me répond plus à mes interrogations. J'ai trop donné à l'Église, j'arrive plus à mettre l'énergie. Ou je vis ma foi d'une façon différente. Mais regardez d'autres statistiques par rapport à l'Amérique du Nord. On dit qu'il y a à peu près plus de 340 000 églises en Amérique du Nord, donc autant aux États-Unis qu'au Canada. Dans ce chiffre-là, 80-85% stagnent ou sont en déclin. 14 à 19% à peu près sont en croissance à cause de soit transfert en circulation des chrétiens entre les églises, hein, le fait que les chrétiens voyagent entre les différentes églises, une croissance biologique par les naissances, hein, on le voit souvent que des fois dans les églises, ben, il y a une croissance à travers aussi les enfants. Et aujourd'hui, on pourrait aussi parler de l'apport de l'immigration. On voit dans beaucoup, et surtout ici au Canada aussi, comment que c'est l'immigration qui permet que les églises croissent. Mais c'est seulement moins de 1% qui croissent à travers des conversions de nouveaux chrétiens. Donc, dans ce chiffre de 14 à 19% d'églises qui croissent, il y a seulement 1% ce sont les nouveaux chrétiens. C'est vrai qu'on a l'impression de voir, quand on regarde sur Internet, sur YouTube, les belles grosses églises, que tout marche, que tout fonctionne, que l'Église se répand, que l'Église se répand, progresse, mais c'est le contraire. Regardez le prochain dia. 8,5 millions de protestants de moins en 10 ans dans toute l'Amérique du Nord. C'est quand même pas mal de plus, moins de personnes dans les églises qui ne vont plus à l'église. 8,5 millions de protestants de moins en 10 ans. C'est vrai que ce sont principalement aujourd'hui des personnes qui peuvent croire encore en Dieu, mais qui sont sans église. Ou ça reste juste une croyance, ou simplement qu'ils ont perdu la foi. Il y a 3 750 églises qui ferment par année, contre 1 300 qui débutent ou s'implantent par an. En 2009, le taux de fermeture a dépassé les implantations de nouvelles églises. Donc depuis 2009, ce qui montre, c'est qu'il y a plus de fermetures d'églises et même le développement, même l'implantation de nouvelles églises n'arrive pas à combler ce déficit. Il y a un taux de décrochage élevé des pasteurs en raison de conflits, sentiments d'improduction, échecs moraux, financiers, stress conjugal, divorce, problèmes de santé, dépression, etc. Et c'est aussi le cas ici au Canada et au Québec. On a besoin de voir la réalité en face et de demander à notre Dieu comment renverser cette tendance. Prochain dia, je ne sais pas si vous connaissez Georges Barna, c'est une organisation qui fait beaucoup de recherches justement sur l'Église par rapport à la société. Et il parle par rapport au déclin de l'Église. Il dit, la recherche montre que les Églises locales n'exercent pratiquement aucune influence dans notre culture. Les 7 sphères d'influence dominantes sont le cinéma, la musique, la télévision, les livres, l'Internet, le droit et la famille. Deuxième niveau d'influenceurs comprend des entités telles que les écoles, les pairs, les journaux, la radio et les entreprises. Écoutez ce qu'il dit. L'Église locale apparaît parmi les entités qui ont peu ou pas d'influence sur la société. L'Église locale apparaît parmi les entités qui ont peu ou pas d'influence sur la société. Quand ils ont fait les recherches, on pose la question. C'est quoi qui vous influence dans la vie? Ils vous ont cité peut-être les 7. Puis c'est beaucoup plus bas qu'ils ont mis l'Église. Lorsqu'on voit ces chiffres, le constat réel de ce qui se passe, quelle est notre réaction? Est-ce que nous allons penser comme avant, dire que l'Église va bien, qu'on est bien chez nous, qu'on est tranquille de pouvoir louer le Seigneur ensemble? Ou est-ce qu'on est prêt à prier fort pour que ça change, pour voir une différence, d'avoir un réel impact? Tom Renner, qui est aussi un commentateur, dit: aujourd'hui, la plupart des églises ne sont tout simplement pas pertinentes pour la majorité de la société. Le langage, la méthodologie, la musique, les organisations, les bâtiments et les sermons ne reflètent généralement pas le monde dans lequel vivent la plupart des gens. Ils sont au mieux en voyage dans un passé nostalgique ou pire, ennuyeux. Pas très réjouissant. Nicole, qui est aussi un auteur chrétien, dit: l'Église locale n'a plus d'influence pour changer le monde. Quelque chose ne va pas dans la façon dont nous faisons l'Église ici. Donc, devant toutes ces constatations, nous devons ouvrir les yeux et voir ce qui se passe. Et demander pourquoi que le message de l'Évangile n'est pas plus pertinent. Est-ce que le message de Jésus a changé ou il n'est plus d'actualité? Est-ce que c'est possible qu'en tant que chrétien, il y a quelque chose à faire? Est-ce que c'est possible qu'en tant qu'Église locale, nous pouvons faire quelque chose ou simplement continuer pour dire, ben, on continue le travail, puis Seigneur, on prie que tout va bien? C'est vrai qu'on peut être découragé devant ce constat ou sans réponse, mais ouvrons notre Bible et nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10. Pour voir que nous avons une solution, nous avons la parole de Dieu, nous avons, comme on a vu aussi à travers le témoignage de Jonas, des façons de comment est-ce qu'on peut simplement être ce partage de l'Évangile autour de nous. Et Éphésiens chapitre 5, versets 8 et 10 qui dit: certes, autrefois, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car ce qui produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ces versets nous montrent que nous sommes passés des ténèbres, c'est-à-dire une vie loin de Dieu et dans le péché, à une vie de lumière avec Christ, pour faire les choses selon ce que Dieu demande, c'est-à-dire de produire la lumière, produire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. Une des raisons du déclin du christianisme et des églises, c'est que les gens ne voient pas le comportement des chrétiens faire une différence dans leur vie et autour d'eux. C'est comme si nous louons Dieu dans nos églises, comme ce matin, nous prions dans nos églises, nous partageons la parole, mais les gens en dehors de l'église n'ont pas l'occasion de voir ces choses en dehors de l'église. C'est comme si le message de l'Évangile qui nous a transformés n'est plus pertinent pour les autres personnes. Mais nous savons que c'est faux. Nous sommes convaincus que Dieu est la réponse à notre vie sans but et sans lendemain. Pour avoir une véritable paix, une joie que la société, avec tous ses artifices, ne sont pas capables de nous donner. Alors, un des gros problèmes des chrétiens et des églises, c'est que leur témoignage ou la lumière qui devrait refléter dans la société, le témoignage du changement de vie, de ce que ça procure, ne passe pas vraiment auprès des concitoyens qui nous entourent. Voilà pourquoi, lorsqu'on regarde la vie simple de Jonas, comment elle a impacté des gens autour de lui à Montréal-Nord et même plus loin, nous doit nous donner le courage de dire: chacun de nous en fait là où Dieu nous place, à notre façon, ce que Dieu nous demande. Voici un tableau qu'un conférencier nous a partagé lors d'une conférence qui reflète sa pensée de ce qui pourrait amener des résultats dans notre évangélisation. Donc la base, c'est Dieu et ce qu'il fait pour nous autour de nous, comme la grâce, l'amour, compassion, bonté, patience, dessein de Dieu. Tout ce que Dieu est pour nous, voilà ce qui attire les gens vers Dieu. Il faut que ce soit la base. Tout ce que Dieu nous a donné comme amour, comme compassion, comme bonté, comme patience, tout cela devrait se refléter lorsque on est avec les autres personnes autour de nous. Puis, dans le niveau 2, nous retrouvons ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens, c'est-à-dire prière et jeûne, le Saint-Esprit qui travaille en nous, les croyants eux-mêmes qui sont utiles et disponibles pour le royaume de Dieu. Donc ça, c'est notre tâche. Lorsque justement on est rempli de la présence de Dieu, lorsqu'on a vu, expérimenté tout ce que Dieu est pour nous, à ce moment-là, à travers la prière, à travers le Saint-Esprit qui travaille en nous, à travers notre action, on peut partager ce que Dieu est. Et le troisième niveau, c'est l'intervention de Dieu, qui à travers sa puissance, que ce soit par des miracles, des prodiges qui démontrent la puissance de Dieu, pour que l'évangile de Jésus-Christ puisse encore toucher des personnes. Ce tableau nous montre que nous n'avons pas besoin de faire de grandes stratégies pour être un témoin de Jésus autour de nous. La grande partie du travail, c'est Dieu qui le fait. Il nous a simplement demandé d'obéir ce que nous avons appris, cette lumière qui est en nous, cette lumière quand on chante le matin, qu'on loue le nom du Seigneur, Elle doit se refléter jour après jour, à nos lieux de travail, dans notre voisinage, dans nos actions comme bénévoles, dans nos travails auprès des autres. Et les gens vont le voir, et les gens vont être contents. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller voir justement Jonas, peut-être lorsqu'il recevait des honneurs, il parlait de Dieu. Et personne n'était choqué. Personne n'était choqué parce qu'il savait, il connaissait Jonas. Il savait que lorsqu'il parlait avec lui, il parlait de Dieu, mais ils n'étaient pas étonnés de dire « Non, non, écoute, ça ne m'intéresse pas, j'ai Dieu, non, non, c'est non. » Non, non, ils voyaient vraiment Dieu agir dans sa vie. Et voilà pourquoi ils écoutaient ses paroles. C'est Dieu qui travaille à travers nous. Le Seigneur veut encore faire des miracles et des prodiges. Il veut qu'on puisse être ce témoignage puissant. On va voir Dieu agir. On va voir des signes, des prodiges, des miracles pour que les personnes soient changées, transformées. Et on voit autour de nous, on entend des signes. L'année passée, rappelez-vous, comment que dans cette université d'Aversbury, comment que des jeunes ont été touchés et se sont humiliés, ont confessé le nom du Seigneur et comment que ça a eu un impact dans l'université. Et on entend à gauche, à droite, on voit des places où Dieu est en train de travailler. Même ici au Québec. Alors pour terminer, ouvrons notre Bible dans Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4. Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4, qui dit « Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui ont entendu et ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien. » C'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit-Saint. Ces versets nous montrent l'apport de notre Seigneur dans notre témoignage, de comment il impacte les personnes autour de nous. Jonas nous démontre comment que c'est possible, tout simplement par notre implication dans la communauté, par les organismes, comment ensuite ce travail peut être reconnu. Jonas nous démontre que même ramasser des canettes est un témoignage puissant et que c'est simplement là où Dieu nous demande d'être. S'il faut le faire, faisons-le. Nous devons retrouver la marque des premiers chrétiens qui vivaient leur témoignage à tous les jours de la communauté et où la puissance de Dieu se manifestait par des miracles. On voit qu'il disait jour après jour, Dieu rajoutait à l'Église les gens qui étaient touchés par ce témoignage. Nous avons besoin de témoigner de ces choses-là autour de nous, de comment que Dieu intervient dans nos vies, de comment il nous transforme, nous délivre de certaines choses, nous libère de certaines oppressions qui sont autour de nous. Pour ne pas avoir peur, dire simplement, « Je veux simplement te servir, Seigneur. » On ne demande pas que vous puissiez sortir de la rue et commencer à évangéliser, peut-être au coin de la rue ou dans un parc, mais simplement être ce témoin autour de vous. Par des actions, vous allez voir comment que Dieu agit. Alors courbons notre tête et réalisons que ce matin, ce que Jonas nous laisse, cet héritage, comme vous l'avez partagé, est très beau. C'est un modèle, c'est un exemple. Mais il faut que nous puissions suivre ce modèle. Il faut que nous puissions suivre cet exemple. Dieu ne nous demande pas à tous faire la même chose. Dieu peut-être ne va pas vous demander de ramasser des canettes pour être un témoignage. Mais Dieu peut-être vous demande, est-ce que tu prends du temps pour moi? Est-ce que tu prends du temps pour la voisine qui passe par des moments difficiles? Est-ce que tu vas la visiter? Est-ce que tu vas simplement boire un café avec elle? Est-ce que tu vois le collègue de travail qui passe par des situations de mariage difficile, de famille? Est-ce que tu peux simplement là être à côté de lui? Lui dire que tu pries, que tu l'encourages. Si nous sommes prêts à être ses témoins, attendons pas que Dieu nous ouvre les portes simplement, mais marchons en avant, allons dans l'action. Et Dieu, avec notre foi, même qui est toute simple, va ouvrir, va même faire un chemin pour que l'annonce de l'Évangile puisse être là. Seigneur, on te remercie pour, oui, pour la vie de notre frère Jonas. Pour beaucoup de personnes, Seigneur, ça fait juste quelques années que nous le connaissons. Et nous savons comment il nous a laissé un impact fort. Voyons que ce n'était pas juste des paroles, c'était sa présence, son témoignage, son exemple, son écoute, ses encouragements qui nous permettaient d'avancer, d'aller de l'avant. Seigneur, tu nous fais réaliser qu'autour de nous, le monde de plus en plus se tourne loin de toi. Que nos églises se vident. Que les gens vont chercher ailleurs leur bonheur, loin de toi. Mais Seigneur, tu nous as donné ta lumière. Tu nous as donné ta grâce, ton amour, ta force. Et qu'un jour, nous savons que comme notre frère Jonas, nous allons le rejoindre là-bas, dans le ciel, avec tous ceux qui t'auront cru, tous ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout. Seigneur, permets que, à l'exemple de Jonas, nous puissions dire, Seigneur, je veux faire une différence autour de moi. Je ne sais pas peut-être comment faire, mais je vais commencer tout simplement. Seigneur, permets que cette semaine, que nous puissions prier et voir comment que, Seigneur, tu peux faire des prodiges, tu peux apporter des signes, des miracles dans nos vies et dans les vies autour de nous. Oui, Seigneur, tu attends. Tu attends que tes enfants se lèvent pour aller dans la moisson. La moisson est prête. Tu dis, Seigneur, prions, prions pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Seigneur, nous voulons, oui, prier pour que les chrétiens et les chrétiennes, les hommes et les femmes puissent rentrer dans cette moisson et récolter ce que tu as préparé. Et nous voulons, Seigneur, pas juste prier pour les autres, nous voulons prier que nous-mêmes, nous soyons ces ouvriers et ces ouvrières, à aller dans la moisson. Et comme à l'exemple de Jonas, de simplement faire ce que tu nous demandes de faire, simplement. Nous ne cherchons pas les honneurs, nous ne cherchons pas la reconnaissance, nous ne cherchons même pas d'avoir un impact, entre guillemets, qui soit reconnu. On veut simplement être là où tu nous places, être un témoin de toi. Et Seigneur, c'est toi qui vas faire la différence. Seigneur, c'est toi qui vas agir. Alors oui, merci. Merci pour la vie de Jonas. Merci pour tout ce qu'il nous a apporté à chacun de nous et qu'il va continuer de le faire. Nous te prions pour que maintenant, nous-mêmes, chacun de nous, là où tu nous places, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux de voisinage, dans nos familles, dans nos amis, on puisse être simplement cette personne qui apporte la lumière, cette personne qui resplendit de ta grâce, de ton amour que tu nous as donné. Nous ne voulons pas laisser ça pour nous. Nous ne voulons pas juste l'exprimer une fois ou deux fois par semaine lorsqu'on vient à l'église. On veut, Seigneur, tous les jours, là où tu nous places, resplendir de ta lumière. Et que ton nom seul soit proclamé. Et que le monde reconnaisse, que le monde reconnaisse que tu es venu en tant que Fils de Dieu. Nous te prions pour chacun de nous, afin que, Seigneur, encore, tu nous démontres, tu nous appelles à rentrer dans cette moisson et à produire du fruit pour ta seule gloire, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Amen. Amen.